Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être venus. Vous êtes nombreux, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on va inaugurer une nouvelle saison, une nouvelle formule, des nouvelles rencontres, des nouveaux rendez-vous qui sont un peu les héritiers lointains, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, de rencontres littéraires qu'on avait animées au cours des dernières années qui s'appelaient « Pourquoi aimez-vous ?» au cours desquels un écrivain nous faisait le plaisir, l'honneur de venir parler d'une œuvre en particulier qu'il appréciait. Et Véronique, tu avais été... On va pas faire semblant de se vouvoyer parce que voilà, on s'aime bien. Véronique, tu avais été une des premières à venir pour parler de Lewis Carroll à l'époque. C'était il y a 6 ans. Et Véronique nous a fait l'amitié pour inaugurer cette nouvelle formule qui s'appelle « Fragments de saison ». Pourquoi dans un instant, tu nous as fait l'amitié de venir pour parler de ce monstre qu'est 2666. Pourquoi 2666 ? Parce qu'il est à l'affiche de l'Odéon. Pourquoi Fragments de saison ? Eh bien parce que plutôt que d'inviter des auteurs à parler d'œuvres d'autres auteurs qu'ils apprécient, sans connexion directe avec ce qui se passe au plateau, dans ce nouveau cycle Fragments de saison, on va essayer à la fois de parler d'œuvres marquantes avec des écrivains, et de ce qui se passe au plateau, puisque les œuvres en question sont celles qui vont animer la scène du théâtre. Vous savez qu'en ce moment, 2666, dans l'adaptation de Julien Gosselin, est programmée et se joue actuellement aux Ateliers Berthier. Vous avez peut-être entendu en arrivant une chanson, Sexual Healing. Voilà, ben ça, ce que vous avez entendu, c'était Don Juan en train de se chauffer la voix au plateau de la Grande Salle. Puisque nous avons aussi Don Juan de Molière dans la mise en scène de Jean-François Sivadier qui se joue en ce moment à côté. Notre prochain fragment de saison sera, dans une semaine exactement, parce que ça a toujours lieu le mardi, consacré à Don Juan. Voilà, ça s'intitulera un peu beaucoup passionnément Don Juan, et là j'aurai le plaisir et l'honneur de rencontrer un vieux camarade, Jean-Charles Darmon, que je connais depuis 30 ans, et qui est spécialiste, qui est universitaire, grand professeur et spécialiste du XVIIe siècle, et tout particulièrement de la pensée libertine au XVIIe. C'est dire qu'il connaît très très bien Don Juan. Jean-Charles sera là la semaine prochaine. C'est dire aussi que dans Fragments de saison, nous n'inviterons pas toujours des écrivains. C'est pas que je le regrette. Rencontrer des spécialistes, des universitaires, des personnes avec une expertise pointue, c'est passionnant aussi. Ça va être passionnant parce que ça va les déporter un peu leur terrain habituel. Alors que toi, Véronique, par contre, tu vas rester dans le tien, puisqu'il s'agit, avec Bolaño, avant tout, de questions romanesques, de questions d'écriture et de la question du rapport au réel. Alors, on s'est demandé avec Véronique comment lancer cette soirée. Et Véronique a très sagement opté pour la simplicité. Elle connaît Bolaño depuis maintenant quelques années. Elle en a parlé comme d'une sorte de coup de foudre littéraire, on y reviendra. Et elle a proposé pour initier ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore Bolaño et essayer de vous faire partager un peu l'effet de ce coup de foudre sur elle, elle a très gentiment proposé de vous lire quelques extraits choisis de l'œuvre. Qu'elle connaît bien, l'œuvre de Bolaño est immense, elle se révèle petit à petit avec les années. Bolaño est mort en 2003, ça va faire 13 ans, et très régulièrement, des inédits sont publiés, ce qui fait que son œuvre est encore en train de grossir. Je crois que personne ne peut prétendre la connaître vraiment à fond, mais si quelqu'un la connaît en France, si une écrivain en France la connaît, c'est bien Véronique. Voilà. Elle a la première édition de 2666, qui a été publiée, comme la plupart des œuvres de Bolaño d'ailleurs, avant tout chez Christian Bourgois. Je n'ai pas apporté l'édition espagnole, mais j'ai quand même ici l'édition folio, qui est la plus facile à trouver maintenant. Et bien entendu, les paginations ne correspondent pas.
Parce qu'on a fait des essais, comme ça, je lui disais, page tendre, ça serait bien de lire ça. Et il me disait, mais j'en ai pas la même.
Donc je ne comprends pas trop de quoi tu parles.
Et c'est pas tellement facile de se repérer dans le texte comme ça, parce qu'il fait, en grand format, il fait 1000 pages, et alors en poche...
Seulement 1000 pages, oui, mais c'est 1000 grosses pages. Là, il en fait 1350.
Voilà. C'était un peu compliqué. Voilà. Et du coup, moi, je proposais, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas bien Bolaño, enfin, pour ceux qui le connaissent aussi, d'ailleurs, parce que ça peut être très impressionnant. Bolaño, Roberto Bolaño. Parce que justement, ce texte-là, il faisait 1000 pages, parce que Bolaño, tous les écrivains, enfin, beaucoup d'écrivains disent que, que c'est un écrivain qui a changé leur vie, que 2666, c'est une espèce de livre flambeau. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien de faire une espèce de portrait de Bolaño par fragment, puisque lui-même a fait beaucoup de petits autoportraits, comme ça, de lui, sur son rapport à l'Amérique latine, sur son rapport à la littérature, surtout, et son rapport, disons, au livre en général, en tant que lecteur, parce qu'il disait d'ailleurs, en général, qu'il était d'abord un lecteur d'être un écrivain. Alors, c'est un peu bizarre quand vous voyez comment il était écrivain, vous imaginez comment il était lecteur. Et alors, il faisait des chroniques, d'ailleurs, très, très régulièrement dans des journaux espagnols, dans un journal espagnol.
Les voici.
Qui sont magnifiques. Et donc voilà, donc je me suis dit, tiens, on va parler de Bolaño en l'abordant de ce côté-là, avant de parler de 2666 et puis éventuellement de ce qui peut porter vers cette œuvre. Alors Bolaño, comme tu disais, il est mort en 2003, il est né au Chili et il a quitté le Chili avec ses parents en 68. Son père était boxeur, il en parle dans pas mal de ses nouvelles. Il était boxeur, c'était un arnaqueur d'Indiens, dit-il. Un entrepreneur à la petite semaine, voilà, quelqu'un de pas très flamboyant, mais il en parle dans pas mal de nouvelles et c'est un très beau personnage. Et Bolaño retourne en fait en 73 au Chili, juste avant le coup d'État, et il a été arrêté par des militaires. Il est allé en prison pendant 8 jours, et vous savez comme ça devient ce genre de choses, c'est qu'en fait il a été en prison pendant 8 jours, et avec sa célébrité, sa notoriété, c'est devenu 8 mois en prison. C'est un peu comme les petits boulots, vous savez, des artistes, enfin, tous les petits boulots qu'ils ont faits avant d'être connus. Ils ont été, je ne sais pas, promeneurs de chiens, thanatopracteurs, j'en sais rien, plein de choses comme ça. Et tout à coup, ça, même s'ils sont restés une demi-heure en poste, on va en faire la liste en disant qu'ils ont vécu de petits boulots. Et lui, c'est pareil, ses 8 jours en prison sont devenus 8 mois ou 8 mois de prison. Et après, il est parti, il a beaucoup vagabondé en Amérique latine, il a beaucoup passé de temps au Mexique et il est parti s'installer en Catalogne, à Blanes. Et c'est là qu'il a écrit la majorité de ses grands romans, de ses grandes œuvres. Alors, mais en plus, surtout d'écrire des livres, qui sont des romans qui sont tout à fait fondamentaux. Ce qui est intéressant chez Bolaño, c'est que certains pensent qu'il est difficile, mais il est très narratif, en fait. Les romans de Bolaño, on peut aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi les lire vraiment comme de grands, beaux romans, comme des fresques, comme des romans de chevalerie en quelque sorte, certains d'entre eux c'est vraiment ça, et pas du tout comme des textes extrêmement trop complexes. Enfin, je pense qu'on peut avoir il y a plein de pactes de lecture possibles en fait avec Bolaño. Donc en tout cas voilà, il y avait des choses qui étaient assez amusantes, il y avait des opinions très très radicales, mais très changeantes aussi sur beaucoup de sujets, et sur la littérature en général, et la littérature en Amérique latine tout particulièrement. Voilà ce qu'il disait de la littérature chilienne. Le jeune écrivain sans fortune, avec un nom à se faire, continue et continuera à vivre dans un milieu hostile, terrain de chasse de ceux qui sont consacrés et satisfaits d'eux-mêmes. Ceux qui sont satisfaits sont d'habitude des gens irascibles, mais ce sont aussi des couards. Leur discours est le discours de la médiocrité et de la peur, et on peut le mettre à bas avec le rire. La littérature chilienne, si prestigieuse au Chili, n'a pas plus de 5 noms valables. Cela, il faut le rappeler en tant qu'exercice critique et autocritique. Il faut aussi rappeler qu'en littérature, on perd toujours, mais que la différence, l'énorme différence, porte sur le fait de perdre debout, les yeux ouverts, et non pas à genoux dans un coin, priant Saint Judas Thaddée avec les dents jouant des castagnettes. Ça, c'est très important chez Bolaño, on en parlera du courage, en fait, c'est quelque chose qui revient tout le temps, et moi, ça m'évoque vraiment la phrase de Gracq, c'est quand il dit... il est temps de mettre un terme au spectacle glaçant d'écrivains debout sur leur patte arrière. Et qu'il était toujours en train de vitupérer contre les académies.
C'est quand même littérature à l'estomac, ça.
Ouais. Ouais. Alors, à propos
tu parlais du père boxeur, là, par exemple. Effectivement, on voit qu'il préfère tomber KO debout.
Il est combattant, on va dire. Ouais. Alors, au de l'Amérique latine, il dit « Ce que nous avons de mieux en Amérique latine, ce sont nos suicidés, volontaires ou pas. » Nous avons les pires hommes politiques du monde, nous avons les pires capitalistes du monde et nous avons les pires écrivains du monde. Nous sommes connus pour nos jérémiades et nos larmes de crocodile. L'Amérique latine est ce qui ressemble le plus à la colonie pénitentiaire de Kafka. Nous essayons de tromper quelques Européens naïfs et quelques Européens ignorants avec des œuvres absolument nulles, où nous faisons appel à leur bonne volonté, au politiquement correct, aux histoires de bons sauvages et à l'exotisme. Nos universitaires et nos intellectuels, la seule chose dont ils rêvent, c'est de donner des cours dans une université du Middle West. De la même manière qu'autrefois, le but était de voyager et de vivre sur le compte du mécénat néo-stalinien et qui, pour nous, constituait une incomparable réussite. Nous sommes des experts S-bourses, des bourses que parfois on nous concède plus par pitié que par mérite. Notre discours de la richesse est ce qui ressemble plus à un bouquin bon marché de développement personnel. Notre discours de la pauvreté est un discours imaginaire où seules résonnent des voix de fous qui parlent de ressentiment et de frustration. Et là aussi, je crois qu'il était très important parce que c'était quand même quelqu'un d'extrêmement drôle. Il y avait une forme de burlesque, de grotesque, d'autodérision et parfois un brin de cynisme quand même sur le milieu qui, en tout cas, moi, me revigore. Pour moi particulièrement, j'ai relu Bolaño, ça me fait un bien fou.
Il y a deux choses dans ce que tu dis déjà là, dans ton début de portrait, ouais. C'est qu'effectivement, d'abord le rapport à la pauvreté. Bolaño n'a pas commencé par être libre, il a commencé par la pauvreté. Et il n'a pas reculé devant, il s'est trouvé libre d'écrire ce qu'il voulait par force, parce qu'il était pauvre. Il a vécu vraiment la littérature, c'est très émouvant quand on découvre sa vie, il a vraiment vécu la littérature comme une vocation à laquelle, dès l'âge de 15 ans, il a absolument tout sacrifié, mais sans rouler des mécaniques, sans faire le malin, sans se plaindre. Il a assumé la pauvreté comme une obstination extraordinaire et comme une sorte de conséquence naturelle d'un choix tout à fait délibéré. C'est très, très émouvant. Alors, tu parlais de la légende des petits boulots. En l'occurrence, il en a quand même fait quelques-uns.
Oui, il a été gardien de camping.
Il a écrit, par exemple, l'un des textes qu'on trouve dans Troyes a été écrit dans ce camping, je crois. L'un de ses premiers romans, qui s'appelle Anvers, a été écrit dans ce camping et fait interférence avec le texte. Il a bel et bien fait la plonge dans les restaurants. Il a été vendeur de bijoux chez sa mère pour gagner sa vie. Mais sans aucune hostilité à l'égard de... Sans aucune amertume, pour le coup.
Non, je pense qu'en fait, c'était quand même... Alors, je pense que... J'ai rencontré des gens qui l'ont rencontré, qui disaient qu'en effet, à la fin de sa vie, il avait 50 ans quand il est mort, il était quand même un peu agacé par justement tout le bruit. On l'entend là, dans ce petit passage sur la littérature latino-américaine. Il est un peu agacé quand même par tout ce raffut sur la littérature latino-américaine que lui, il trouve quand même très, très en dessous de ce qu'elle devrait être. Et donc je pense que parfois quand même ça ne devait pas être si simple. Et d'ailleurs il y a un passage que moi j'adore, c'est celui que je t'avais envoyé, où il dit comment faire avec la critique, parce que ça c'est pas facile quand même quand on se prend des petits coups sur la tête par la critique. Et il dit: je verse des torrents de larmes chaque fois que je lis que quelqu'un dit du mal de moi. Je me mets à pleurer, je me traîne par terre, je me griffe, j'arrête d'écrire pendant une durée indéfinie, je perds l'appétit, je fume moins, je fais du sport, je vais marcher au bord de mer qui, entre parenthèses, se trouve à moins de 30 mètres de chez moi, et je demande aux mouettes dont les ancêtres ont bouffé les poissons qui ont bouffé Ulysse, pourquoi moi qui ne leur ai fait aucun mal. Donc, moi j'adore ce passage qui quand même dit aussi que, bon, voilà, il a toujours sa distance salutaire, on va dire.
Il parlait d'autocritique, il avait aussi le sens de l'autodérision.
Ouais,
et il avait aussi une veine satirique extraordinaire. Il a écrit quelques critiques sanglantes qui sont d'un burlesque absolument délirant. Non, ouais. Quand je parlais de pauvreté, aucune complaisance et aucun apitoiement à l'égard de lui-même. Mais il était...
Mais il disait quand même qu'il était ultra sentimental. C'est une phrase qui revient tout le temps dans ses textes. Il dit qu'il a la larme facile et qu'il est, comme tous les latinos, il est sentimental. Comme si c'était une espèce de gène particulier qui était dans toute l'histoire de l'Amérique latine et dans tous les gens qui y sont nés. Mmh. Donc il parle quand même de ce sentimentalisme dont il se défend parfois. Il dit, mais bon, bah voilà, c'est paragez vous faire pleurer. Moi, je me fais pleurer. C'est pas très, très important. Alors, il y a quelque chose de très important, en effet, dont il faut parler quand on parle de lui. Évidemment, c'est ce qu'on disait, c'était le courage. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Le courage d'être écrivain, le courage d'être un écrivain pauvre, le courage de continuer à avancer et de ne pas être l'un de ces chiens savants, l'un de ces chiens qui se mettent sur leur derrière, là. Et du coup, après, il demande une espèce de courage aussi du lecteur, ce qui, je trouve, est très intéressant dans ce qu'on vit aussi actuellement. On a l'impression quand même que le lecteur demande deux choses, il me semble, actuellement. J'ai l'impression, les lecteurs, c'est qu'ils demandent à apprendre quelque chose ou à se divertir. Et là, Bolaño vous dit non, pas du tout, en fait. Ce qu'il faudrait, ce serait de ne pas être la même personne quand vous lisez un livre à la page 20 et quand vous arrivez à la page, on va pas dire 1000, on va dire à la page 220. En fait. C'est ça qui, lui, il attend en tant que lecteur et c'est ça qu'il est prêt à nous donner aussi et c'est ça qu'il nous donne quand même. Alors, donc là, c'est un petit extrait de 2666. Il parle d'un personnage et il dit « La peur d'Ivanov était de nature littéraire, c'est-à-dire que sa peur était la peur dont souffre la plus grande partie des citoyens qui décident un beau ou un sale jour de transformer l'exercice des lettres, et surtout l'exercice de la fiction, en partie intégrante de leur vie. Peur d'être mauvais, peur de ne pas être reconnu, mais surtout peur d'être mauvais. Peur que leurs efforts et leurs peines ne tombent dans l'oubli, peur que leurs pas ne laissent pas d'empreintes, peur que les éléments du hasard et de la nature effacent les empreintes peu profondes, peur de dîner seul ou que personne ne remarque leur présence, peur de ne pas être apprécié, peur de l'échec et du ridicule, mais surtout peur d'être mauvais, peur d'habiter toujours l'enfer des mauvais écrivains. » Moi, j'adore ce passage-là parce que c'est une espèce de... Alors là, quand je dis, on va faire... C'est tous les autoportraits de Bolaño. Là, on entend complètement sa terreur, en fait, tout à coup, de perdre le cap, en fait, le cap de ce que c'est qu'être un bon écrivain. Il ne demandait pas être un grand écrivain, mais un bon écrivain qui continue à avancer. Je trouve ce petit passage très...
Et donc, un bon écrivain, c'est quelqu'un qui nourrit toujours une certaine peur à l'égard de sa littérature?
Je pense que c'est quelqu'un qui, d'après ce que je comprends, en tout cas, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas, évidemment... à voir par les sirènes alentour et qui va en effet sa peur de ne pas être mauvais parce que ça revient tout le temps, sa peur d'être mauvais parce que ça, c'est même plus fort que la peur de ne pas être reconnu. La peur d'être mauvais est quelque chose qui est comme une espèce de petit animal sur votre épaule et qui vous empêche d'écrire une phrase trop facile ou il me semble que c'est ça qu'il nous raconte là.
Parce que tu vois, dans un des premiers passages que tu as lus, il imputait une certaine couardise aux grands écrivains latino-américains parvenus, aux grands auteurs chiliens, qui écrasent de leur mépris, mais aussi de leur couardise d'autres auteurs. Il y a comme deux formes de peur là.
Oui.
Il y a la peur des écrivains, entre guillemets, qui ne s'engage pas réellement dans ce que l'écriture exige, et la peur profonde, intime mais secrète de l'écrivain qui, lui, face au travail et à l'expérience de la littérature,
bien sûr,
a peur de ne pas être à la hauteur.
Oui, on voit bien que c'est la différence, ce que ça crée en fait, la couardise d'ailleurs, ce mot est très très clair sur ce que ça signifie en fait, cette espèce de peur de pas être reconnu à sa soi-disant juste valeur. Et lui, moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est qu'en effet, il était dans une... C'est pour ça qu'il était plein d'autodérision, il était dans une espèce de surveillance permanente de ce qu'il était en train d'écrire, pour être sûr qu'il n'allait pas se laisser aller à quelque chose de trop facile. Et d'ailleurs, il y a un passage qui est très intéressant dans Entre parenthèses, donc c'est un recueil, comme on disait, de beaucoup de ces... Comment dire, ces notes de lecture. Il y a aussi des articles qu'il avait écrits. Il y a aussi quelques interviews, des discours. Et il y a un petit passage que j'adore qui c'est sur. Ça s'appelle Un narrateur dans l'intimité et c'est sur sa cuisine littéraire. Bon, je ne lis pas tout, mais c'est assez drôle. Ma cuisine littéraire est souvent une pièce vide où il n'y a même pas de fenêtre. J'aimerais bien évidemment qu'il y ait quelque chose, une lampe, quelques livres, un léger parfum de courage, mais la vérité c'est qu'il n'y a rien. Parfois cependant, lorsque je suis victime d'irrépressibles crises d'optimisme, qui s'achèvent, soit dit en passant, en allergie épouvantable, ma cuisine littéraire se transforme en un château médiéval, avec cuisine, ou en appartement à New York, avec cuisine et vue privilégiée, ou en cabane sur les flancs de la cordillère, sans cuisine, mais avec un feu de bois. Parvenu à ce point de la crise, généralement, je fais ce que font tous les gens, Je perds l'équilibre et je pense que je suis immortel. Je ne veux pas dire immortel littérairement parlant, car cela seul peut le penser un imbécile, ce à quoi je n'arrive pas, de toute façon. Mais littéralement immortel, comme les chiens et les enfants et les bons citoyens qui n'ont pas été encore malades. Heureusement ou malheureusement, toute crise d'optimisme a un début et une fin. Si elle n'avait pas de fin, la crise d'optimisme se transformerait en vocation politique ou en message politique. Et de là à ensevelir les livres, je préfère ne pas dire les brûler parce que ce serait exagéré, il n'y a qu'un pas. Ce qui est certain, c'est que du moins dans mon cas, les crises d'optimisme ont une fin et avec elles prend fin la cuisine littéraire, s'évanouit dans les airs la cuisine littéraire et il ne reste que moi, convalescent. Et une très légère odeur de marmite sale, d'assiettes mal ramassées, de sauce gâtée. Je ne sais pas ce que l'on doit faire dans une cuisine littéraire, mais je sais en revanche ce que l'on ne doit pas y faire. On ne doit pas plagier. Le plagiaire mérite d'être pendu en place publique. C'est ce qu'a dit Swift, et Swift, comme nous le savons tous, a mille fois raison. Que ce point reste clair, on ne doit pas plagier. À moins que vous désiriez être pendu en place publique. Bien que de nos jours, on ne pende pas les plagiaires. Au contraire, ils reçoivent des bourses, des prix, des charges publiques, et dans le meilleur des cas, ils se transforment en auteurs de best-sellers et leaders d'opinion. Quelle expression étrange et repoussante, leader d'opinion. Je suppose que cela doit signifier la même chose que berger de troupeaux, ou guide spirituel des esclaves, ou poète national, ou père de la patrie, ou mère de la patrie, ou beau-père de la patrie. Dans ma cuisine littéraire vit un guerrier que certaines voix, des voix sans corps ni ombre, appellent écrivain. Ce guerrier est toujours sur le pied de guerre. Il sait qu'à la fin, quoi qu'il fasse, il sera défait. Cependant, il parcourt la cuisine littéraire qui est en ciment et il affronte son adversaire sans faire ni demander de quartier.
Donc la cuisine finit par redevenir un ring finalement.
Ben ça voilà, on en revient à ça. Et t'as vu, ça revient à ce qu'il disait au début, ce qu'on a cité quand il disait de toute façon on perd toujours.
Oui.
Quand même cette conviction que on s'essaye à quelque chose, mais bon, on est perdant. Et il adorait d'ailleurs les perdants. Il le répète continuellement dans tous ses textes critiques, c'est qu'en fait c'est ça qu'il aime le plus évidemment.
Il y a une chose qui était frappante aussi dans le passage que tu viens de lire,
ouais.
C'est que la cuisine littéraire pour Bolaño en tout cas. C'est le seul endroit, apparemment, qui lui permette de se croire immortel, c'est-à-dire, vu ce qu'il dit après, d'oublier sa mortalité. Mmh. Hein? Et pourtant, si quelqu'un s'est vu animé à l'écriture par le sentiment très aigu de sa mortalité,
bien sûr.
C'est bien lui. Il a su assez vite, malheureusement, qu'il était atteint d'une maladie extrêmement grave, une maladie hépatique extrêmement grave. Il a vécu des années et des années en attendant une greffe qui malheureusement n'est jamais arrivée.
Oui.
Et il a vécu des années et des années en sachant qu'il était littéralement mourant.
Oui, mais je pense que c'est aussi ça qu'il est en train de nous dire. Il dit, je peux avoir l'illusion un instant d'être immortel comme les enfants ont cette illusion.
Comme les animaux.
Mmh. Ou comme les bons citoyens qui n'ont jamais été malades. Je trouve ça très beau, très fort, et sachant qu'en effet, lui, très, très vite, il a su en effet qu'il allait mourir. Il est mort à 50 ans, il est mort le 14 juillet 2003, et il est rentré à l'hôpital une énième fois en espérant une greffe, et puis elle n'est pas venue. Et il a laissé... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, le fait qu'il était en plein dans 2666, donc dans ce monstre-là. Et en fait, quand on le lit, bon, on nous dit que c'est un texte inachevé, pas du tout perturbant que ce soit inachevé, vous ne vous rendez absolument pas compte que c'est un texte inachevé. Ça pourrait très bien finir sur cette dernière partie, c'est un livre qui est en 5 parties, 5 romans en un, et ce n'est pas du tout perturbant. Et donc, du coup, c'est cette impression, je pense qu'en fait, quand on est dans cette conscience permanente, enfin, il me semble, hein, de sa mortalité, il était, chaque jour, il écrivait sa dernière phrase. Ben, donc, c'est pour ça aussi qu'elles sont toutes sublimes. Voilà, on va le dire ça. Alors, d'ailleurs, il a écrit un truc qui est très beau sur la maladie. Il dit « Écrire sur la maladie, si l'on est soi-même gravement malade, peut être une torture. » Écrire sur la maladie si l'on est, en plus d'être gravement malade, hypochondriaque, est un acte de masochisme ou de désespoir. Mais cela peut être un acte libérateur. Exercer pendant quelques minutes la tyrannie de la maladie. Comme ces petites vieilles que l'on rencontre dans les salles d'attente des dispensaires et qui passent leur temps à raconter la partie clinique ou médicale ou pharmacologique de leur vie au lieu de raconter la partie sexuelle ou professionnelle. C'est une tentation diabolique, mais une tentation en fin de compte. Avec mon médecin, le docteur Vargas, je maintiens une relation du genre armateur grec milliardaire, c'est-à-dire la relation d'un homme marié qui aime sa femme, mais qui essaie de la voir le moins possible. Nous cherchons l'antidote ou le médicament pour nous soigner, le nouveau, ce qui ne peut se trouver que dans l'inconnu. Il faut continuer à passer par le sexe, les livres et les voyages, même si l'on sait qu'ils nous mènent à l'abîme, qui est d'ailleurs le seul endroit où l'on peut trouver l'antidote.
C'est-à-dire le nouveau,
ouais.
C'est-à-dire l'inconnu. Mais oui. Et Bolaño a écrit un très très beau commentaire dans le même volume du voyage de Baudelaire, voilà, et du vers de Baudelaire, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et donc le nouveau, c'est dans le sexe, dans les livres,
les voyages.
Et dans les voyages.
Et dans son errance, parce que lui, plus qu'un voyage, c'était une errance, évidemment, depuis le Chili jusqu'à l'Espagne, où là, il a trouvé un lieu où rester.
Ça, c'est quelque chose à quoi, toi, tu as dû être très sensible, non, quand tu l'as découvert, parce que toi-même aussi, tu n'es pas un auteur de ce qu'on appelle la littérature de voyage.
Non.
Mais on voyage beaucoup dans tes romans.
Alors, on voyage beaucoup, et moi, je déteste voyager, en fait. En fait, ça me terrifie. Les voyages, ils terrifient les trajets. Pendant des années, j'étais le genre de personne à acheter un billet d'avion et à ne pas et à annuler le voyage juste avant de partir. Donc j'ai toujours voyagé autrement et parce que l'épreuve du réel est toujours quand même un peu compliquée hein, avec les voyages. C'est toujours beaucoup mieux de lire sur les voyages, de rester chez soi, d'imaginer un voyage plutôt que de l'éprouver. Mais c'est vrai que c'est fondamental dans mes livres, puisqu'il n'y a pas un seul de mes livres qui se passe ici, sauf dans le dernier, il y a une partie qui se passe à Paris, mais qui est un Paris, ce n'est pas le Paris des Parisiens, c'est le Paris des exilés. C'est le Paris hostile de des étrangers, en fait. Donc, c'était. Parce que ça a toujours été le territoire du voyage, justement, du départ, ça toujours, et de l'inconnu, comme ça, ça a toujours été le territoire de la littérature. Donc finalement, prendre des avions, être à l'heure, les plateaux repas de l'avion et arriver sur place, ça m'ennuie beaucoup. J'ai du mal à... Je me redouche, j'ai un anglais de survie, un espagnol de survie. Donc non, c'est très, très, très perturbant pour moi, les voyages. Mais malgré tout, je voyage quand même parce que je sais combien... Après, quand je suis revenue, j'adore me souvenir des voyages. Comme plein de gens. Je pense que le voyage en soi, c'est pas très drôle, mais le souvenir du voyage, c'est bien.
Parce que Bolaño, lui, a beaucoup voyagé, très jeune, il a été une sorte de déraciné permanent, ce qui ne fait pas de sa littérature une littérature d'exil non plus. On avait consacré à l'Odéon des cycles sur l'exil, on aurait presque pu parler de l'anti-exil à la Bolaño, d'une certaine façon. Bolaño avait dit quelque part que finalement sa seule maison, c'était les livres, mais il a remplacé l'expression plus tard par « ma seule patrie, ce sont mes enfants ».
Oui. Voilà.
Donc, effectivement, difficile d'être exilé de ça. Mais toi, en ce qui te concerne, le premier texte de Bolaño que tu as lu, ça a été 2666.
Oui, ça a été 2666.
C'est par là que tu es entré. Parce que ça, c'est un texte, tu le dis, ce sont cinq romans en un. D'ailleurs, Bolaño avait pensé les publier séparément. Il y a une note à la fin des éditions,
ouais.
Où l'exécuteur testamentaire de Bolaño, son ami, qui a publié le texte, rappelle cette hésitation. Est-ce qu'il fallait publier les cinq parties comme autant de romans distincts et successivement, un par an? C'était le souhait de Bolaño.
Mais c'était un souhait. C'était un souhait pour ses ayants droit, justement.
Voilà.
C'est le souhait. Il s'était dit, de toute façon, ce livre-là, je ne le publierai jamais de mon vivant. Mmh. Donc, pour que ce soit publiable, éditable, on ne sortira jamais un livre de cette ampleur-là, ça sera bien plus simple de le faire en cinq morceaux.
Et digeste, on va le fractionner en cinq romans qu'on va livrer au public à raison d'un par an, à peu près. Comme ça, bah voilà, chaque année, il s'en vendra un peu et ça sera très bon pour mes héritiers,
pour mes enfants.
Parce qu'il avait deux enfants, dont une petite fille en bas âge qui avait à peine 2 ans. Donc c'était ce souci-là. Mais le fait est qu'il a donc considéré que 2666 pouvait être publié par étapes et que donc les lecteurs pouvaient, à raison d'un par an, entrer peu à peu dans cette œuvre-là. Mais il l'avait quand même conçu comme un tout. le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on la lit comme un tout, quand on la prend comme un tout, on est peut-être un peu impressionné, mais qu'à aucun moment on a le sentiment d'une faille dans la construction. On a l'impression vraiment d'un tout qui est effectivement conçu et très très maîtrisé, et on n'a pas du tout une impression d'inachèvement. Mais là où je voulais en venir, c'est que ces cinq parties s'articulent toujours, entre autres choses, autour d'un voyage, d'un déplacement.
Ah oui, c'est vrai. C'est bon, je n'ai même pas remarqué.
Mais si.
Non, si. Non, en fait, parce que ce qui est étonnant avec ce livre, parce qu'il y a donc cinq parties. Il y a la première partie, ce qu'il appelle la partie des universitaires, non ? C'est ça ?
Oui, oui, la partie des critiques.
Des critiques. Donc là, on a cinq universitaires, je crois, qui sont spécialistes d'un mystérieux
écrivain. Ma chère Véronique, qui est le cinquième ? Ils sont quatre.
Ils sont quatre.
Ils sont quatre. C'est un quadrille, tu sais, c'est une partie carrée.
Mais ils sont quatre.
Mais tu as raison, il y a le cinquième.
Le cinquième, c'est Amalfitano,
oui, qui est...
Qui lui est au Mexique. Et il y aura sa partie à lui.
C'est quatre mais, plus un.
Donc, en fait, ils vont tous être... ils viennent tous, je sais pas, obsédés par cet écrivain mystérieux, Archimboldi. Et donc, on a... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est parce qu'il a, dans ce livre, Bolaño, il a mis, comme il voulait, une espèce de fresque totale, et qu'il ne voulait pas... Et il est compté sur son lecteur pour être un peu courageux et y aller, quoi, ne pas avoir besoin d'un tout petit pitch pour lire son livre. Donc, il a aussi déployé toute une série de genres. En fait. Donc, on a à la fois donc, le campus novel, là, on a après, on a le roman noir, on a le pulp fiction, on a le bildungsroman aussi. On a quand même beaucoup de choses différentes dans ce texte-là. Et chacun, en fait, ce qui est très drôle, c'est quand vous parlez aux gens qui ont lu 2666, les gens qui l'ont lu pour de vrai, vous savez, pas ceux qui vous disent je l'ai lu de, enfin, pas personnellement. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on a tous une partie qui nous a absolument bouleversé. Alors moi, la partie d'Amalfitano, donc c'est ce personnage qui habite au Mexique, qui accueille les quatre critiques qui sont à la poursuite d'Archimboldi. Et j'adore ce personnage parce que c'est un homme qui dérape, en fait, c'est un homme qui devient fou. Et il devient fou dans ce désert de Sonora qui est fondamental, parce que c'est quand même un lieu. C'est pour ça que quand tu dis chaque partie, ce sont des lieux différents. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un pôle magnétique. C'est le désert du Sonora. C'est la ville de Santa Teresa, qui est une ville fictive, mais qui est une ville qui est la jumelle de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez étant cette ville qui est tout au nord du Mexique, qui est la ville frontière avec les États-Unis, où toute l'Amérique latine converge. Parce qu'évidemment, ils voudraient passer derrière les grillages. Et c'est une ville, évidemment, d'une violence terrifiante, où il y a énormément de main d'œuvre, donc il y a beaucoup d'usines tout autour, il y a toutes les maquiladoras, donc en fait il y a plein de femmes qui viennent travailler là dans les usines et puis qui attendent qu'un beau jour elles puissent traverser. Je dis des femmes parce qu'en fait les femmes vont être très importantes dans cette histoire de Santa Teresa, puisque et toute la partie des crimes, qui moi est celle quand même qui m'a absolument bouleversée. C'est la partie des crimes de ce livre, c'est la partie la plus longue. C'est lié au féminicide de Ciudad Juárez, qui était donc une vraie histoire terrifiante qui se passait à Ciudad Juárez, qui était des femmes étaient kidnappées et on les retrouvait découpées en morceaux, je ne sais quoi. Elles avaient été violées, elles avaient été étranglées, on leur avait fait subir tout un tas de sévices, on les retrouvait dans le désert en fait. Et puis on ne poursuivait pas tellement qui avait pu faire ça. On partait du principe que c'était sans doute des narcotrafiquants. Et en fait, lui, il répète en permanence qu'en fait, si on ne poursuit pas qui sont ces gens-là, qui sont les tueurs, en fait, c'est parce que ce sont des ouvrières et ce sont des femmes. Et il en revient en permanence à cette espèce de drame d'être une femme en Amérique latine, et il dit un truc extrêmement violent, il dit « nous sommes tous des enfants du viol en Amérique latine ». Et donc il y a une dimension comme ça qui est d'une force, moi je trouve, dans cette partie-là, et il fait une espèce de... Il y a une mélopée en fait des meurtres, par moment. Alors, pas seulement, hein, c'est pas juste une mélopée de meurtre, hein, cette partie-là, parce qu'on s'approche aussi très près d'un inspecteur qui, en fait, lui, s'y intéresse et pourrait vraiment savoir ce qui se passe là. Il a l'impression qu'en effet, la source de tout le mal, elle est dans cette ville et qu'il se passe quelque chose avec ces meurtres de femmes. Mais moi, c'est une partie qui a changé, en fait, ma vie, en fait, en gros.
Donc pour toi, la partie centrale, c'est la quatrième.
J'ai l'impression que c'est la partie, c'est la partie centrale. Et après, la cinquième partie, c'est la partie d'Archimboldi, donc ce peintre, vous voyez bien celle-là, cet écrivain qui était mystérieux, cet écrivain mystérieux du début, et qui même à un moment donné, on peut imaginer que c'est peut-être lui qui tue les femmes, enfin, il nous laisse plein de pistes possibles, et donc on a toute la partie d'Archimboldi à la fin, qui est donc là, on est vraiment dans du roman de guerre, puisque on est en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et parce que j'ai pas tout relu en fait. Donc ces parties-là, j'ai relu la partie des meurtres, mes parties préférées évidemment.
Ben écoute Véronique, tu nous fais déjà l'amabilité, l'amitié de venir en parler comme ça. Si en plus on t'avait imposé de le relire avant.
Ah ben non, mais là, c'est pas une, c'est pas.
Pour la septième fois.
Non. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi chez Bolaño, c'est le fait qu'il demande, à son lecteur, il demande quelque chose quand même. Il demande il écrit un roman d'aventurier, il demande à son lecteur d'être prêt à lire ça, d'être prêt à être un aventurier. Et c'est pas si difficile au fond, hein, parce que comme je vous le disais, c'est quand même très narratif, il y a des embardés lyriques, des embardés poétiques, des embardés encyclopédiques dans ce texte. Mais il y a un truc qui est très beau, et d'ailleurs il le cite dans 2666, parce que c'est à propos de la préférence des gens, les gens qui préfèrent Bartleby à Moby Dick, qui préfèrent la métamorphose au procès. Et il dit, quel triste paradoxe, j'aime bien quand il dit ça, même les pharmaciens cultivés ne se risquent plus aux grandes œuvres imparfaites, torrentielle, celle qui ouvre des chemins dans l'inconnu, ils choisissent les exercices parfaits des grands maîtres, ou ce qui revient au même, ils veulent voir les grands maîtres dans des séances d'escrime d'entraînement, mais ils ne veulent rien savoir des vrais combats, où les grands maîtres luttent contre ça, ce ça qui nous terrifie tous, ce ça qui effraie et qui charge corne baissée, et il y a du sang et des blessures mortelles et de la puanteur. Et on en revient toujours au ring, on en revient toujours à Papa Boxer.
Et au courage, oui.
Et au courage
de l'écrivain. C'est intéressant cette distinction entre l'œuvre brève comme exercice et comme escrime, comme simple
et parfait, dans sa forme,
démonstration d'une virtuosité, et l'œuvre monde, l'œuvre massive, qui, elle, cherche vraiment à se mesurer à un inconnu qui chez Bolaño, est toujours effrayant. Cette mesure du réel qu'il cherche à prendre, elle suscite toujours chez l'écrivain, en tant qu'écrivain, cet effroi particulier. Mais tu parlais du lecteur, c'est vrai que Bolaño prend au sérieux son lecteur. On le comprend.
On ne peut pas le faire autrement.
Difficile de faire autrement quand vous écrivez comme ça, dans cette masse. Mais l'épigraphe de ce volume, de plus de 1300 pages, il l'emprunte encore à Baudelaire, c'est une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Et il vous invite sur ces mots à entrer là-dedans. C'est dire que il aurait pu mettre carrément, vous qui entrez ici, laisser toute espérance comme lecteur. Et d'une certaine façon, c'est ce courage-là qu'il demande à son lecteur, je crois, de déposer l'espérance de ne pas traverser ça sans courir le risque de l'ennui et pire encore de l'horreur. Tu parlais de cette partie centrale. Tu parlais du féminicide. Tu savais que le mot féminicide a été importé de l'espagnol féminicidio, qui a été forgé au Mexique précisément pour parler de ce qui s'est passé et qui n'a jamais vraiment cessé d'ailleurs.
Non, ça n'a jamais vraiment cessé.
Bon, les gens qui aiment le théâtre, qui viennent à l'Odéon, savent que ce sont ces événements-là aussi qui ont inspiré la Casa de la Fuerza. Voilà, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça continue. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette partie centrale, je voulais te dire, tu n'as pas encore vu le spectacle, que c'est aussi pour Julien Gosselin, le metteur en scène, la partie centrale de son spectacle aussi, d'une certaine façon.
Mais c'est là qu'il est ogresque, tu vois, par rapport à notre petit thème là, c'est la littérature,
oui, la littérature
ogresque,
comme ogre. Oui.
Comme ogre. En fait, c'est là moi que j'entends en fait qu'il est que quand je lis ces passages-là, alors il y a des moments d'une poésie absolue, étrange, comme des respirations. Il y a un moment donné où il dit l'université de Santa Teresa avait l'air d'un cimetière qui, à l'improviste, se serait mis vainement à réfléchir. Elle avait l'air aussi d'une boîte de nuit vide. Et donc, il a des images comme ça, très fortes. Ça, c'est enfin, il y a du blanc avant, du blanc après. T'as cette espèce d'image qui surgit. Et on voit tout à fait ce qu'il est en train de faire. Enfin, moi, personnellement, je vois très bien ce qu'il veut dire. Je pense que vous voyez aussi cette espèce de bout du monde et de... Et c'est une espèce de strapontin du monde, là, comme ça, de cette ville au milieu du désert. Et il y a quelque chose, de, quand j'ai lu 1666, où j'ai été complètement absorbée, que j'ai été, ça m'a dévorée. Donc je pense que lui, c'est évidemment, quand on écrit un texte comme ça, ça dévore. Et ça dévore aussi son lecteur. Mais je sais pas, moi j'aime beaucoup les livres, en fait, les livres ogresques, en fait, les auteurs qui proposent comme ça des livres de 1500 pages et qui vous disent. Alors, on y va ? J'aime bien ça.
Mais tu dis que la quatrième partie a changé ta vie, littéralement, qu'il y a eu un avant et un après, en tant qu'écrivain aussi, donc.
Ah oui, bien sûr, mais parce que justement, il est clair, il en parle tout le temps, il parle de cette exigence-là. Il dit, voilà, il parle du courage et de l'exigence. Et donc, quand vous écrivez, il faut toujours, il me semble, avoir cette conviction que... qu'il faut continuer à être courageux, que malgré tout le bruit alentour, malgré les malentendus, il va falloir continuer à faire ce qu'on a à faire. Mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de bruit autour. Et en fait, ça m'a permis ça, et ça m'a permis aussi parce qu'il avait aussi décidé, et c'est quelque chose que moi j'ai trouvé génial chez cet homme, chez cet écrivain, c'est qu'il refusait la littérature de confort. Il refusait la littérature simpliste. Il a dit non, moi c'est pas un roman, moi c'est un roman. Voilà, il y a tout, comme je disais tout à l'heure, il y a tout dans ce roman. On dit souvent, et c'est un peu galvaudé, un roman monde, un roman comme ça. Mais là, on a vraiment tout. Et donc lui, il dit, bah, c'est pas grave, je vous donne tout, maintenant vous allez faire ce que vous avez à faire. Et donc, il vous apprend, quand vous êtes écrivain, il vous apprend aussi la vigilance. Enfin, je sais pas, voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui est à côté et puis qui dit non là, non.
Ce que j'entends, ce que tu dis, tu parlais du bruit et de lutter contre le bruit et de continuer malgré tout à se battre contre le bruit. Ce bruit, pour le dire vite, ce serait le bruit du monde, le bruit extérieur. Et donc c'est comme si pour surmonter le bruit du monde, ou le traverser, ou survivre au bruit du monde, il fallait comme l'absorber, l'avaler à l'intérieur du roman, à l'intérieur de l'œuvre. Parce que le fait est que cette œuvre de 1666, c'est aussi une façon de se mesurer à et d'absorber et d'envelopper ce chaos, ce bruit, ce vacarme effroyable et ce qu'on appelle d'un mot rapide le mal, le mal radical. Dans la quatrième partie, je crois que tout le monde s'accorde à reconnaître que en tout cas, c'est bien cette partie-là que Bolaño visait quand il a tout construit. Tout le texte, les cinq romans, sont comme une sorte d'énorme maelstrom, un mouvement comme ça qui est en train de graviter vers un centre, vers un trou noir.
Oui, et tu parlais de pôle magnétique,
oui,
en fait.
Oui, tu parlais de pôle magnétique, c'est très vrai. On a ce sentiment que lentement et de plus en plus vite, on est en train d'être aspiré vers un trou. Et ce trou est sombre, il est effrayant, il est terrifiant, et il se situe quelque part dans la quatrième partie. Même dans la quatrième partie, on ne pourra jamais définir les bords de ce trou, on ne pourra jamais pointer du doigt ce qu'est exactement ce trou, cette terreur, cette source de la terreur. Bolaño n'offre pas de solution facile à ses lecteurs.
Non, mais il cherche, à ses lecteurs en fait, on a l'impression quand même qu'il cherche la clairière.
Ouais.
En fait, il essaye d'avancer, alors il fait des tentatives. Et ça, c'est magnifique de faire des tentatives. Et il nous les offre, il nous les donne. Et dans ce texte qui est immense, qui est donc bouleversant, il fait toutes ces tentatives-là, mais il va aussi les faire dans des tout petits textes. Il va les faire dans un petit roman lumpen. Tout à coup, tu vas avoir dans un tout petit texte. Alors, il n'aimerait pas qu'on dise ça, même sous Bolaño, parce qu'il dirait préféré Bartleby à Moby Dick. C'est un tout petit texte, et quand certaines personnes me disent par quoi il faut commencer pour Bolaño, je dis toujours il faut commencer par 2666 parce que je pense que c'est la meilleure porte pour jouer une dame qui fait. Mais il y a.
C'est la grande porte en tout cas.
Ça me semble, ouais, ça me semble, voilà, c'est la grande porte, allez, on rentre par la grande porte. Et, mais on a aussi tout un tas de petites choses merveilleuses qui alimentent et qui alimentent en fait cette espèce d'organisme étrange qu'est 2666.
J'ai appris, grâce à une critique excellente, universitaire, qui vient de publier ce livre qui s'intitule « Sous le roman, la poésie », Florence Olivier, que j'avais eu le plaisir de connaître au Mexique il y a bientôt 30 ans maintenant. Donc Florence a écrit récemment, a recueilli ses articles sur Bolaño en volume. Ça vient d'être publié chez Hermann. Ça s'appelle « Sous le roman, la poésie, le défi de Roberto Bolaño ». Ça, on n'en a pas parlé du fait qu'effectivement, ces romans sont des romans non pas d'un ex-poète, mais de quelqu'un qui continue la poésie, comme si le roman était la continuation de la poésie par d'autres moyens. Et comme Bolaño disait lui-même que la poésie était un combat perdu d'avance, encore.
Ça revient toujours.
Ça revient, on en revient toujours là.
Il est cohérent, hein, quand même.
Ouais, il est très cohérent. Il est très, très cohérent. Et donc, elle a toute une section sur 2666, qui s'intitule 2666, Illumination au pluriel, comme chez Rimbaud, Illumination de l'horreur. Et au détour d'un paragraphe, elle signale que dans cette quatrième partie de son magnum opus, il y a 110 fiches descriptives de 110 victimes, de 110 femmes, 110 fiches signalétiques qui sont quasiment des descriptions de médecine légale ou de police. Oui. La quatrième partie est une sorte de chronique tout à fait chronologique de la vie de plusieurs personnages à Santa Teresa, et mais le passage du temps est scandé.
Et oui, c'est les ponctuations, en fait, ce sont les descriptions de ces...
Des crimes. C'est chaque fois qu'une victime est retrouvée, elle a droit, en quelque sorte, à sa page tombale dans 2666. Et il y en a 110 de descriptions, comme ça, à chaque fois, un paragraphe à peu près, 110 descriptions de victimes. C'est effroyable. Tu as raison, c'est bouleversant. En même temps, quand on prend la distance, on se dit c'est aussi un tour de force littéraire que de réussir à faire tenir des pages comme ça, dans une œuvre comme ça, sans achever d'épouvanter et d'ennuyer son lecteur.
Oui, parce que j'avais hésité à un moment donné, je me suis dit tiens, je vais vous lire quelques petits passages de 2666, et donc j'étais sur ma partie. Donc, et j'ai commencé à relire tous ces passages-là, et je me suis dit mais en fait, je vais pas vous lire. Une description, enfin c'est magnifique en même temps, mais c'est très fort, c'est très factuel, et en même temps évidemment il nous dit énormément de choses sur ces femmes, et puis comme il le disait tout à l'heure, il était sentimental, donc en fait on sent sa douleur quand il nous raconte la façon dont elles sont mortes, mais je me dis mais on peut pas faire ça, enfin je peux pas vous lire des descriptions de femmes mutilées là comme ça, c'est un peu difficile, ou vous lisez tout seul chez vous. Et donc voilà, j'ai beaucoup hésité. Et puis ce qui est intéressant, c'est parce que ça rythme, quand tu dis très justement, ça rythme le temps, c'est que ça va se passer sur un an ou deux ans, je ne sais plus le
sur plusieurs partie années,
là, ouais, oui. Sur plusieurs années. Et donc, il donne les dates. Et donc, on a sinon tout ce qui se passe, les autres personnages, et à chaque fois, ce qui se passe, en juillet, il ne s'est rien passé. Et la première mort de l'automne, ce fut Rosa, machin, etc. Et donc, c'est vrai que c'est une façon de rythmer l'année qui est un peu particulière. Hein.
On n'a pas du tout parlé de la construction du roman. Je ne sais pas si on peut en parler sans dévoiler des secrets ou anticiper sur vos propres découvertes de lecteur. Mais je parlais de la cohérence tout à l'heure. Le fait est que, comme construction, c'est une cathédrale de temps assez impressionnante. On vient de parler à l'instant du rythme chronologique, du rythme de chronique de la quatrième partie. Ce rythme de chronique, on l'a aussi, mais un peu moins anticipé dans la première. Sauf que dans la première partie, que tu as qualifiée d'un tu lui as donné son nom anglo-saxon, là, c'est quoi ? C'est
Campus Novel.
Campus Novel, voilà. Une Campus Novel, comme vous le savez, ça consiste à mettre en scène des universitaires entre eux, généralement avec une intention assez satirique.
Oui, voilà. Hein, et, des histoires d'amour, de tout.
Oui, oui. Tu l'as dit, 2666 est un déploiement de formes romanesques absolument étourdissant. Et parfois, non seulement il s'exerce dans chaque genre, mais il les superpose, il les travaille en même temps. C'est assez, assez extraordinaire. On a de la satire dans la quatrième partie, incroyablement. On vient d'écrire quelque chose de sinistre, d'une noirceur effroyable. Et pourtant, cette partie-là, il y a des passages qui sont aussi extrêmement drôles, d'un humour noir incroyable. Et inversement, dans la première partie, la partie des critiques, qui sont donc ces universitaires qui passent leur temps plus ou moins à coucher ensemble dans différentes combinaisons. Je ne vous dis pas comment ça se termine, parce que ce serait dommage. On a aussi des passages très, très noirs, très, très inquiétants. On a des premières esquisses de la terreur qui va suivre. Mais on a aussi un rythme chronologique, chronique. Sauf que quand vous le lisez, vous ne savez pas encore que dans la quatrième partie, alors que le temps est rythmé par les cadavres et par les meurtres, et cette espèce d'épouvantable retour du même atroce du crime, dans la première partie, vous ne savez pas encore, mais ce qui tient lieu de rythme du temps, ce sont précisément les rencontres entre universitaires qui couchent ensemble les uns avec les autres.
D'un continent à l'autre,
à l'occasion des colloques, si vous voulez. Ce qui tient lieu des crimes dans la première partie, dans la quatrième partie, ce sont les colloques universitaires de la première. Vous voyez, il réussit à construire des contrepoints comme ça qui sont tout à fait hallucinants. Enfin, toi, ton ta préférée, c'était la quatrième, celle
qui
t'a bouleversée.
C'est celle qui reste après, je trouve, fortement, violemment, quoi. La première, en effet, mais cela dit, quand j'ai commencé, je me souviens très bien du jour où j'ai commencé ce livre, j'ai lu la première ligne. En fait, j'étais en fait avec la personne qui me l'a donné. Il en avait deux. C'est un écrivain qui s'appelle Fabrice Collin qui me l'a donné. Il m'a dit, j'en ai deux, est-ce que t'en veux un? Je dis, bon, oui. Moi, j'avais évidemment entendu parler de Roberto Bolaño. Mais du coup, je me suis dit, tiens. Et puis je me suis dit, waouh, génial, 1000 pages. Et là, il y avait juste cette première phrase qui disait, la première fois que Jean-Claude Pelletier lut Benno von Archiboldi, ce fut pendant les fêtes de Noël de 1980 à Paris, où il suivait des cours de littérature allemande à l'université et il avait 19 ans. Et puis, je lis ça, et puis j'avais lu la quatrième juste avant. Et puis, il y avait ce petit bout du discours de Bolaño, donc quand il a accepté son prix là, en 99, le prix Romulo Gallegos. Qu'est-ce qui fait une écriture de qualité? Savoir s'immerger dans la noirceur, savoir sauter dans le vide et comprendre que la littérature constitue un appel fondamentalement dangereux. Et donc, je vais lire ça et je commence là et je me dis, il ne va pas du tout nous emmener dans un David Lodge, il va nous emmener dans un truc terrible en fait. Et donc, c'était cette idée d'être emporté dans quelque chose qui allait...
Dans le maelstrom.
Ouais, qui allait tout ratiboiser. Après, c'est difficile. Le problème, c'est quand vous lisez Bolaño, après, vous avez du mal à lire autre chose. C'est quand même le curseur absolu, quoi. Vite, ah oui, ça vous fait penser à Bolaño. Oui, ça fait penser à Bolaño. Mais voilà, c'est... Et puis, vous avez c'est ce truc. Alors, du coup, comme il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens qui sont... d'éditeurs dans le monde qui évidemment considèrent que c'est un auteur fondamental. Vous avez plein de quatrièmes de couverture, de choses comme ça. Il y a écrit qui évoque Roberto Bolaño. Vous savez, c'est un peu comme ils aiment bien faire ce genre de choses sur les quatrièmes de couverture. Après, vous êtes atrocement déçu, évidemment, parce que ça n'a rien à voir. Mais c'est une espèce de quelque chose qui nous dit ça va être très très bien, vous allez voir. Ça va être grandiose. Ça va ressembler à du Bolaño. Évidemment, ça ne ressemble jamais.
En tout cas, son public est en train de s'étendre. Vous l'aviez peut-être lu et peut-être connu auparavant, mais je constate, et ça ne date pas que de la mise en scène de Julien Gosselin, mais elle y a contribué, en tout cas. Je constate que les lecteurs de Bolaño sont de plus en plus nombreux et que le cercle est en train de s'étendre. Il y a quelques années, Bolaño était un peu, encore en France en tout cas, ce qu'il était d'ailleurs en Espagne et dans les pays d'Amérique latine, un auteur pour connaisseurs, et en particulier un auteur pour auteur, un écrivain pour écrivain.
Ouais.
C'est en train de changer. C'est en train de changer. Bon, tu es écrivain et tu as été particulièrement touché par Bolaño. Le fait est que si on tape un peu sur Internet, on peut tomber par exemple sur une sur une vieille enquête de Télérama, je crois qu'il était, oui, les 100 romans préférés des écrivains. Voilà. C'est quelque part, c'est une enquête qui date de 2008 ou 2009. Tu as été interrogé, et parmi tes 10 romans préférés, tu avais mis 2666. C'est dire que tu n'es pas ici par hasard aujourd'hui. Mais tu n'avais pas été la seule.
C'est comme ça, en fait, qu'il a...
Elle est taquine. Mais tu n'étais pas la seule. Beaucoup d'autres écrivains, je crois que Bolaño, en fait, était l'auteur, en gros, contemporain, qui était le plus cité par ses pairs comme auteur d'un de leurs 10 romans préférés. Voilà. Je me rappelle que Mathieu Hénard le citait. Mathias Hénard le citait aussi. Ouais. Il en citait même 2 de Bolaño. Ouais. 2. 2 de ses romans préférés sur 10 étaient signés Bolaño, l'autre étant Les Détectives Sauvages, qui lui, bon, petit bras, ça fait quoi, 500, 600 pages ouais. C'est ouais. Seulement 500, 600 pages. Donc, c'est pour dire que c'est un auteur pour auteur, un écrivain pour écrivain.
Mais pas seulement, quand même. C'est pour ça que ça, je reviens toujours à ça.
Il est en train de trouver son plein statut d'écrivain, qui est un écrivain qui écrit face à l'inconnu et pour des inconnus, qui écrit pour des gens dont il ne sait pas qu'ils vont le lire, lui. Ce qu'il a toujours été, finalement. Il l'a toujours été. Il a commencé par écrire... dans une solitude, il a écrit la nuit dans le camping dont il était gardien. Il ne savait pas à qui il s'adressait. Puis ses pairs ont commencé à le lire, il a commencé à avoir des récompenses littéraires, mais il était surtout lu par des écrivains.
Il est lui-même personnage dans des romans, en fait, on l'aperçoit dans des romans de... comment il s'appelle cet écrivain espagnol Il est dedans, justement, il garde un camping, Roberto Bolaño, qui a écrit Les soldats de Salamine. C'est qui, c'est Parker Thomé ou c'est...
Cercas.
Et dedans, il a un personnage de Cercas. Et il y a d'autres romans, on l'aperçoit en fait, on voit Roberto Bolaño. J'aime bien, c'est un petit peu le Hitchcock. Il passe.
Oui. C'était son ami. Oui. Oui. Bah, il, de toute façon, Bolaño a toujours traité la littérature comme un plan de réalité à part entière, tout à fait à part entière. Pour lui, en tout cas, sa littérature, c'était en effet une pièce, une cuisine, vide, mais néanmoins une cuisine. On avait apporté 3 aussi. Oui, je tenais à apporter ces petits volumes de chez Bourgois, dont un volume de poésie, pour que vous vous persuadiez que Bolaño n'était pas nécessairement, même ogre de la littérature, ça n'est pas nécessairement un auteur de masse ou de monstre. C'est quelqu'un qui pratiquait aussi la forme courte. Même s'il fait mine parfois de la dédaigner, le petit roman Lumpen dont tu parlais à l'instant, c'est un texte magnifique, très différent dans d'autres harmoniques. C'est clairement le même talent, le même génie qui écrit ça, mais c'est très très différent. Et c'est la dernière œuvre qu'il ait publiée de son vivant. Donc voilà, c'était pas non plus n'importe quoi. Mais je voulais vous parler de 3. Dans 3, vous avez un texte qui s'appelle « Un tour dans la littérature ». Tu avais dit que tu avais pensé peut-être à lire un ou deux fragments de 3. Vous allez tout de suite voir pourquoi.
Fragments de 3.
Oui, pourquoi je considère que pour Bolaño, effectivement, la littérature n'est pas simplement une métaphore du réel, mais un peu plus que ça.
Ah oui, alors oui, c'est magnifique ce passage-là. Il était fasciné, quand même, il était passionné par Georges Perec. C'était son écrivain. Petit 1, j'ai rêvé que Georges Perec avait 3 ans et qu'il me rendait visite. Je le prenais dans les bras, je l'embrassais et je lui disais qu'il était un enfant magnifique. Petit 2, à mi-chemin, nous sommes restés, père, ni cuit ni cru, perdus dans l'immensité de ce dépotoir interminable, errant et nous trompant, tuant et demandant pardon, maniaco-dépressif dans ton rêve, père. Ton rêve qui n'avait pas de limite et que nous avons 1000 fois déchiffré et ensuite 1000 fois de plus, comme des détectives latino-américains perdus dans un labyrinthe de verre et de boue, voyageant sous la pluie, voyant des films où surgissaient des vieux qui criaient « Tornade, tornade !», regardant les choses pour la dernière fois, mais sans les voir, comme des spectres, comme des grenouilles au fond du puits, perdus dans la misère de ton rêve utopique, perdus dans la multiplicité de tes voix et de tes abîmes, maniaco-dépressifs dans l'incommensurable salle de l'enfer où ça cuisine ton humeur. » Ça veut dire qu'en fait, il a petit 3, à mi-chemin, ni cru ni cuit, bipolaire, capable de chevaucher l'ouragan. Et juste après, on a petit 11. J'ai rêvé que dans un cimetière oublié d'Afrique, je trouvais la tombe d'un ami dont je ne pouvais plus me rappeler le visage. Et c'est tellement, c'est très juste, hein, parce qu'en fait, c'est à la fois c'est une espèce d'envolée complètement lyrique et qu'on a la fin que tu me faisais dire tout à l'heure du roman Lumpen, que j'avais oublié, la dernière phrase du roman Lumpen, qui fait une page qui est sublime. Et puis, on a des tout petits fragments, des petites phrases très brèves qui vont. Il se permettait tout, je crois.
Mais tu veux le lire, le dernier paragraphe du petit roman Lumpen?
Oui, ça va, vous inquiétez pas, ça ne va pas vous empêcher de le lire.
Non, ça ne révèle rien de...
Des jours et des jours, cependant, je me suis attendue à une mauvaise nouvelle. Je lisais la presse, pas tous les jours, hein, parce que nous n'avions pas d'argent pour acheter le journal quotidiennement. Je regardais la télévision, j'écoutais les nouvelles à la radio, dans le salon de coiffure, craignant de trouver la silhouette finale de Machisté étendue sur le sol, au milieu d'une flaque de sang, son sang froid, et à côté de lui, les photos, genre photos d'identité du Bolognais et du Libyen, me fixant avec nostalgie depuis une page ou depuis l'écran de notre télévision, qui était à présent réellement la nôtre et non plus celle de nos parents morts, comme si leurs photos, celles des assassins et de la victime, celles de l'assassin et des victimes, avaient été le signal qu'à l'extérieur persistait encore la tempête. Une tempête qui n'était pas située dans le ciel de Rome, mais dans la nuit d'Europe, ou dans l'espace qu'il y a entre une planète et une autre planète. Une tempête sans bruit et sans yeux, qui venait d'un autre monde. Un monde que même les satellites qui gravitent autour de la Terre ne peuvent capter, et où existait un vide qui était mon vide, une ombre qui était mon ombre. Moi, j'adore.
Oui, mais ça, c'est la dernière phrase qu'il a publiée de son vivant.
Voilà.
Cette tempête sans visage et sans yeux, d'une certaine façon, elle résume ce qu'il capte et ce qu'il fait exister dans 2666. Pour ça que quand j'ai appris que Julien Gosselin voulait mettre ça en scène, je me suis dit, là, pour le coup, on est vraiment dans la gageure absolue. Parce que adapter un roman au théâtre, ça n'est jamais facile. Adapter un roman comme le précédent qu'il avait adapté, c'est difficile, mais ce n'est pas impensable. Une histoire est racontée, il y a du dialogue. Dans Roberto Bolaño, non seulement il y a très très peu de dialogue, presque pas, c'est très descriptif, très narratif, mais en plus, c'est vraiment une œuvre qui se confronte, avec ce courage dont tu parlais, qui se confronte à l'irreprésentable, au non concevable, non représentable, à ce à quoi on ne peut pas faire face, qui est effectivement une... Et même les corps de ces femmes ne sont finalement qu'une sorte de figure d'une horreur plus fondamentale. Et ce qui est... Bon, ça a l'air très noir, hein, ce qu'on dit là, mais ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si tu vas partager cette lecture-là, de ma part, c'est que le cinquième roman de 2666, c'est aussi une sorte de réponse implicite à cette horreur-là. Dans la première partie, des critiques cherchent un écrivain qu'ils n'arrivent pas à repérer. Ils croient avoir entendu qu'ils seraient au Mexique, dans une certaine ville qu'ils ne connaissent pas. Ils y vont, ils ne le trouvent pas, il se passe d'autres choses, mais ils n'ont pas trouvé l'écrivain. Ils sentent que sa présence a infusé dans la ville, mais ils n'ont pas réussi à le trouver. Dans la deuxième partie, le philosophe, le professeur de philosophie qui les a accueillis, vit son propre destin, éprouve sa propre menace, devient fou et en même temps devient plus lucide que n'importe qui, parce que lui capte ce mal qui le hante et tremble pour sa fille. Dans la troisième partie, sa fille rencontre un jeune journaliste sportif noir venu dans cette ville pour rendre compte d'un combat de boxe et qui se trouve happé par la réalité de cette ville, et qui va suivre cette fille un peu comme Thésée suit le fil d'Ariane dans une sorte de labyrinthe, mais infiniment plus monstrueux, parce qu'il ne s'agit pas d'un minotaure, c'est la ville entière qui est comme une sorte de minotaure monstrueux. Et on arrive à la quatrième partie, où tout d'un coup, cette horreur monstrueuse saute au visage. Si le roman s'était achevé sur cette quatrième partie, ce serait vraiment une des œuvres les plus...
Noir.
Les plus noirs, ça l'est déjà, mais là, pour le coup, ce serait d'une noirceur sans rémission aucune. Mais là-dessus, il y a la cinquième partie. Je ne sais pas si on doit en parler beaucoup pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais enfin, de toute façon, c'est tellement plein de surprises, on peut le dire quand même. Alors, contre toute attente, hein, près de 1000 pages plus tôt, on a fini par oublier que c'est parti sur la quête d'un écrivain allemand disparu, mystérieux, octogénaire, qui s'appelle Archimboldi. Et la cinquième partie nous présente Archimboldi. La cinquième partie nous raconte l'histoire d'Archimboldi, qu'on n'identifie pas forcément tout de suite, mais la cinquième partie, c'est à celle-là que tu faisais allusion quand tu parlais de Bildungsroman, de roman de formation, c'est la formation, la naissance d'une vocation réelle d'écrivain. Pas de critique, pas de journaliste, pas de philosophe, mais d'écrivain, d'une façon d'écrire sui generis, particulière, qui implique un rapport au réel, une façon de capter le réel qui est particulière, qu'on appelle l'écriture. Et c'est comme si dans cette cinquième partie, on voit se constituer l'écrivain, par où ça passe, c'est comme si on avait une sorte de réponse implicite à toutes ces questions terribles qui ont été posées auparavant. Ce ne sont pas des solutions, c'est simplement, voilà, ce qu'on peut faire
des possibilités.
Dans ça et contre ça, dans ça et contre ça, et malgré ça, il reste possible d'écrire. Et la preuve, voici un écrivain. Voici un écrivain, voici par où il est passé, voici, on ne vous cite pas ses œuvres, mais on vous montre ce que c'est que la formation d'un écrivain. Et c'est une très, très très belle partie aussi, un peu reposante après ce qu'on a vécu, vous en doutez, mais pas tant,
que ça,
parce que comme il naît en 1920, on traverse toute l'histoire du XXe siècle. Hein, et bon, l'agneau étant ce qu'il est, il ne vous fait pas de cadeau. Il vous emmène sur le front de l'Est. Je ne vous en dis pas plus.
On vous en dira pas plus.
Non.
Il faut absolument que... Parfois, absolument, vous faites ce que vous voulez, mais ceux qui n'ont pas lu, ce serait pas mal d'y jeter un œil.
Voilà. Alors, quand même, Véronique, ce serait une belle phrase de conclusion, mais je tenais tout de même à rappeler, puisque tu nous as fait l'amitié de venir, que je m'étais dit, si on ne trouve pas assez à dire sur Bolaño, on pourra toujours parler de ton œuvre à toi. On a écrit dans la petite présentation qui vous a été distribuée, on a écrit que Soyez imprudents les enfants était ton dernier roman publié, ta dernière œuvre publiée. Je l'ai donc lu et relu pour faire des rapports. J'ai constaté que c'était plein de dommages discrets d'écrivain à écrivain, dommages et d'allusions à 2666, je ne dévoilerai pas lesquels, mais je tenais quand même à rectifier une petite erreur dans votre programme. Ça n'est pas ta dernière œuvre publiée, puisque ta dernière œuvre publiée, et ça c'est un titre très bolanien, tu ne le dis pas sur la quatrième de couverture parce qu'il n'y a pas de quatrième à proprement parler, son titre est très bolanien, ça s'appelle « La science des cauchemars ». Voilà. Là-dessus, je crois qu'on peut vous souhaiter de vous laisser happer par l'ogre et vous inviter non seulement à voir le spectacle, qui est très beau, mais à lire également le roman qu'il a inspiré.
Véronique, merci à vous.
Je te remercie. Merci à toi.